Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes du Canal M. Nous, c'est Franceline Nieuviard, animatrice. Bonjour, Franceline.
Oui, bonjour, Roger.
Et Roger Roy, ici. Et, pardon, excusez. En régie, notre indispensable accompagnateur et guide, Jean-Sébastien Laliberté. Essayons de chasser ce chat. Et c'est le lundi 9 mars, et le lundi, nous faisons une incursion au rayon de la culture et de la société du Kiosque Magazine. Et qu'avez-vous préparé pour nous, Francine?
Oui, alors ce matin, mon premier article portera sur la santé repensée, qui est le titre d'un livre du docteur Gaëtan Brouillard, qui vient de paraître aux éditions de L'Homme. Mon deuxième article est totalement différent. Il s'agit des achats en ligne, comment les annuler ou se faire rembourser. C'est tiré du Bel Âge de mars 2015. Et enfin, quelques documents à conserver. Si vous voulez vendre votre maison, qu'est-ce qu'il est intéressant d'avoir conservé pour faciliter cette vente?
Bon programme que je compléterai avec un texte. Je ne sais pas si c'est exact, mais je ne fais que redire ce qu'il y a dans Reader's Digest. Chez un adulte normal, le nombre de cellules microbiennes surpasse de beaucoup les cellules humaines.
Ah oui, c'est possible,
c'est
oui.
C'est possible, hein? Autre texte, Anne-Marie Chagnon, elle fait briller les femmes. Mm-hmm. Mais pour tout de suite, Résistance, c'est dans la revue de février de Relations. C'est Dominique Boisvert qui nous parle des façons, s'il en existe, s'il en existe, de contrer la curiosité de ceux qui surveillent, qui espionnent les internautes. C'est pour ça qu'il a titulé son texte, son sujet, c'est Résistance. Les technologies numériques, j'entends par là tout ce qui est rendu possible par la révolution informatique et Internet, sont là pour rester, pour le meilleur et pour le pire. La surveillance tous azimuts fait évidemment partie du pire, mais est-il possible d'y résister? Pour résister, il ne suffit pas de connaître les dangers des technologies numériques, il est utile de savoir aussi pourquoi elles nous attirent. En l'occurrence, parce qu'elles permettent de défier les limites et jouent sur notre désir de facilité, Internet donne accès à une quantité presque infinie d'informations sur un simple clic de souris. Avoir l'univers littéralement au bout du doigt, quel rêve irrésistible. D'où notre servitude volontaire qu'a si bien illustré La Fontaine, Jean de La Fontaine, dans la fable Le chien et le loup, pour recevoir sa pitance quotidienne sans les risques d'avoir à la chasser, le chien renonce volontiers à la liberté du loup. Résister veut donc dire d'abord accepter l'existence des limites liées à la finitude humaine et renoncer à la seule recherche de la facilité. On peut voir cela comme un choix philosophique, anthropologique ou spirituel. Que veut dire être humain au 21e siècle? On peut aussi le voir comme un choix de priorité. Jusqu'où suis-je prêt à sacrifier ma liberté et mon autonomie pour accéder à tout ce que promet le monde virtuel? La résistance se déclinera aussi de multiples manières, selon notre évaluation des dangers, surveillance et contrôle social, dictature de la technologie et des oligopoles, modification du cerveau et de la pensée, caractère superficiel, chronophage et addictif de nos gadgets. Dans chaque cas, il faudra assumer d'aller à contre-courant et d'avoir les moyens de David contre Goliath. Pour moi, Dominique Boisvert, l'enjeu de la résistance porte sur la place et l'importance de l'humain dans un avenir proche, l'humain face à la machine et pas nécessairement contre la machine, l'humain comme individu mais aussi dans sa dimension collective, comme société. Les champs de bataille de cette guerre sont nombreux et polyformes. La bataille contre Big Brother, on ne la gagnera pas par le biais de la technologie. On aura beau encrypter nos secrets et sécuriser nos réseaux, il y aura toujours des hackers, malveillants ou non, qui auront une longueur d'avance et des marchands pour chercher à en tirer profit. La conscience de nos droits et de leur importance, entre autres celui à la vie privée, est un outil beaucoup plus efficace que tous les mots de passe réunis. La bataille contre l'individualisme et l'isolement, à cet égard, les technologies numériques sont véritablement ambivalentes, capables d'aider comme de nuire. On connaît à la fois les internautes rivés à leur écran et coupés du réel, et les incroyables mobilisations collectives rendues possibles par l'informatique et les médias sociaux. Si la place et l'importance de l'humain sont l'enjeu de la guerre, alors la résistance devra être collective et passer par la rencontre véritable des hommes et des femmes, en personne comme comme à distance, seul antidote à l'impuissance et à la peur utilisée pour légitimer toujours plus de contrôle et de surveillance rendus possibles grâce aux nouvelles technologies. La bataille contre les nouvelles surpuissances, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, tous ces géants pèsent maintenant plus lourd que plusieurs États. Non seulement stockent-ils des quantités énormes de données à notre sujet, mais ils ambitionnent littéralement d'accaparer le patrimoine culturel mondial sous prétexte de nous le rendre plus accessible. La concentration des pouvoirs vient inévitablement avec la normalisation et la mondialisation des technologies. Il faut inlassablement questionner la propriété privée de celles-ci et appuyer ceux qui développent l'informatique libre. La bataille contre la dispersion et la futilité. Le web est construit sur une structure d'arborescence à l'infini. On peut naviguer à plein temps toute sa vie. Les réseaux sociaux permettent de clavarder sans fin avec des amis virtuels. L'outil n'est pas fait pour favoriser la concentration, le recul et l'approfondissement. Or, il est des choses qui ne se trouvent que dans le silence et la réflexion, ainsi que dans les relations sensibles avec les autres. Tous ceux et celles qui ont pratiqué la déconnexion de toute cette quincaillerie le savent. C'est là une condition essentielle pour rompre avec la servitude volontaire. Ce ne sont là que quelques champs de bataille parmi d'autres. L'essentiel est de résister partout où nous sommes, d'où le titre de son article de « Résistance » par Dominique Boisvert dans la revue « Liberté ». Et il y a aussi un encadré dans cet article qui est signé par Emiliano Arpin Simonetti, qui lui s'intéresse à la question de savoir si les gouvernements peuvent agir pour demander à ceux qui nous fournissent les services internautes de leur communiquer, de communiquer au gouvernement leurs informations. L'accès des gouvernements à des services de renseignement aux données personnelles compilées par les entreprises privées sur Internet est le point névralgique dans la surveillance massive des populations. Au Canada, le gouvernement conservateur cherche à adopter des lois facilitant cet accès. En utilisant des prétextes louables comme combattre les cyberprédateurs, le gouvernement masque la portée réelle de ses lois. Ainsi, avec son projet de loi C-13, le gouvernement vise à accroître les pouvoirs d'enquête des policiers en leur permettant d'obtenir sans mandat des informations personnelles sur des internautes auprès des fournisseurs de services Internet. Il y a des organismes qui luttent contre cette velléité du gouvernement. Open Media, un organisme qui est origine de la Colombie-Britannique, et au Québec, on a un organisme qui s'appelle FACIL, F-A-C-I-L. Alors, ce sont des textes qu'on peut retrouver dans la revue Relations, édition du mois de février.
Alors maintenant, un entretien entre le docteur Gaëtan Brouillard et Catherine Anfield, que j'ai lu dans La Presse Plus du 24 février. C'est à propos de son livre « La santé repensée ». Cessons de chercher la pilule miracle. On consomme trop de médicaments, trop d'antidépresseurs, trop d'antidouleurs et autres antisymptômes. Cette quête de la pilule miracle a assez duré. Il est temps de changer le paradigme en santé et de traiter les causes de nos maladies plutôt que leurs symptômes, plaide le docteur Gaëtan Brouillard dans son premier livre « La santé repensée ». C'est un omnipraticien depuis près de 40 ans. Le docteur Brouillard a acquis au fil des ans des compétences en acupuncture, en naturopathie, en ostéopathie et en hypnothérapie. Ses réponses, il les puise dans la médecine occidentale, mais aussi dans la sagesse ancestrale et les traditions orientales. Parce que le bien-être, selon lui, est intimement lié au mode de vie, à l'environnement, aux dispositions émotives et aux pratiques spirituelles. Première question. Qu'est-ce qui vous a incité à aller chercher des réponses ailleurs qu'en médecine moderne? À un moment donné, on arrive avec des symptômes et des maladies qui ne guérissent plus. Et l'on se dit qu'on ne passera pas le reste de sa vie à prendre des médicaments contre la douleur. Je suis alors allé chercher d'autres instruments qui permettrait de régler des problèmes à leur source. La médecine moderne, qui n'a que 200 ans, doit faire preuve d'humilité. L'homme a toujours été capable de trouver des solutions à ses malaises sans que la haute technologie soit présente. Le premier intertitre de votre livre est « L'arrogance de la science ». En quoi, selon vous, la science est-elle arrogante? Dès les débuts de la médecine occidentale, on pensait déjà qu'on avait pas mal tout compris, qu'on connaissait l'être humain. Or, plus on avance, plus on réalise qu'on n'est encore qu'au début de la compréhension. L'être humain est une machine extrêmement complexe. C'est un corps et aussi une psyché. Actuellement, tout l'élément psychologique est très en retard. On ne sait pas jusqu'à quel point la pensée et l'émotion peuvent nous influencer. La médecine risque de s'égarer si elle va dans l'infiniment petit de l'organe seulement, sans jamais voir l'ensemble de l'être humain. Pourquoi, selon vous, attendons-nous la pilule miracle ? On est habitué à ça. En 1929, le docteur Alexander Fleming a inventé la pénicilline, la première pilule miracle. À partir de là, on a commencé à penser qu'on pourrait trouver un médicament pour régler chaque maladie. Aujourd'hui, on meurt davantage de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Traiter des maladies chroniques avec des médicaments, ça ne fonctionne pas actuellement. On soulage le problème, par exemple le diabète, les maladies de cœur, l'hypertension, mais on ne le règle pas. Tu as trop d'acidité, on va te donner un antiacide. Tu as de l'inflammation, on va te donner un anti-inflammatoire. Tu es déprimé, on va te donner un antidépresseur. Est-ce qu'on prescrit trop d'antidépresseurs? Oui, beaucoup trop. C'est l'un des produits les plus prescrits sur la planète actuellement. Ici, c'est environ une personne sur cinq qui en prend dans sa vie. On travaille et on prend la petite pilule pour supporter tout ça, alors que le gros bon sens serait peut-être de changer notre style de vie. Soit dit en passant, de plus en plus d'études disent qu'entre l'effet placebo et l'antidépresseur, il n'y a pas de différence. Alors, que fait-on pour guérir une dépression? La médecine fonctionnelle que je pratique va s'occuper du traitement, de traiter le problème à sa source. Dans certains cas, l'alimentation peut jouer un rôle. Un individu qui a une intolérance au gluten, par exemple, va développer des anticorps qui vont troubler sa glande thyroïde. Il pourrait développer une hypothyroïdie qui va mener à une dépression. D'autres personnes qui font des dépressions vers la fin de l'hiver ont plutôt besoin de vitamine D, d'oméga 3 ou de luminothérapie, et peut-être d'un voyage dans le sud en février. Il y a aussi vraiment toute la question psychologique. Il y a une part d'intuition dans votre pratique. Par exemple, quand vous faites une injection, vous y déposez des pensées de guérison. Y a-t-il une part de scepticisme envers ce type d'intuition dans la communauté médicale? Le côté scepticisme est là actuellement dans le corps médical. Pourtant, les grands prix Nobel en physique quantique nous disent que ces choses-là sont prouvées en sciences quantiques. L'être humain est très influençable par ce qu'il entend, par ce qu'il voit et par ce qu'il s'attend à avoir. Tout cela est scientifique, mais on tarde à l'appliquer dans la pratique. Comment aimeriez-vous voir la médecine de demain? La médecine de demain, c'est la médecine qui va intégrer à la fois le corps, la psyché et l'esprit de l'être humain. C'est une médecine de qualité où l'on voit les patients lentement et en profondeur. Ce jour-là, on assistera à des avancées incroyables. On n'aura plus besoin d'autant de médicaments ou de grosses chirurgies et le patient n'aura plus besoin de voir 5 ou 6 docteurs pour régler son problème. L'État sera alors gagnant parce que ça coûtera également moins cher. Voilà, le docteur Gaëtan Brouillard est médecin conseil de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où il a été chargé d'enseignement clinique pendant plus de 35 ans. Il est non-participant à la Régie de l'assurance maladie du Québec depuis 2007 et il est propriétaire d'une clinique privée à Laval. C'était donc à propos de La santé repensée, du livre du docteur Gaëtan Brouillard, publié aux éditions de l'Homme en fin de février 2015. Farol.
achar a fonte mais secreta do prazer e a misteriosa chave do meu bem querer.
Le docteur Gaëtan Brouillard, dont nous a parlé Franceline tout à l'heure, va être à l'antenne du Canal M en entrevue avec Marianne Paquette à l'émission « C'est bon pour la santé » mercredi de cette semaine, le 11. C'est une émission qui est diffusée à compter de 14 heures. Bon, alors maintenant, je me tourne vers un article de l'actualité du mois de mars. C'est bien ça. « Elle fait briller les femmes ». Il s'agit d'Anne-Marie Chagnon et de ses bijoux. Alors, l'actualité lui consacre un article signé par Cathy Noël. David Chagnon, directeur général de Bijoux Anne-Marie Chagnon, AMC, n'arrive pas à répondre à la demande des délégations du Québec à l'étranger qui veulent exposer, entre guillemets, les bijoux de sa sœur cadette. Dans les présentoirs, il y a les produits de l'érable et ses bijoux, s'étonne-t-il encore. Cette visibilité donne un sérieux coup de pouce à la joaillière montréalaise, dont la notoriété s'étend maintenant sur 5 continents. Ses bijoux se vendent dans plus de 500 boutiques indépendantes dans le monde, de New York à Tokyo en passant par Paris. Même l'émission de télé Paquet voleur à Radio-Canada a préparé une question sur la designer. La question était la suivante: dans quel domaine la créatrice québécoise Anne-Marie Chagnon se spécialise-t-elle? Elle dit, elle, à ce propos, « J'espère qu'ils n'ont pas répondu, c'est qui, elle? » Vêtue de noir de la tête aux pieds, ses cheveux de jais remontés en petits chignons, Anne-Marie Chagnon déambule dans son atelier. Elle se fraye un chemin parmi les tables et les toiles qui gisent sur le sol pour montrer un croquis par-ci, une pièce fraîchement moulée par-là. Dans ce grand local inondé de soleil qui lui est réservé à l'arrière de l'atelier de production, dans le quartier de Villeray, elle peut laisser libre cours à sa créativité débordante. Bienvenue au royaume de l'essai et de l'erreur. Je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche, dit-elle. Mon problème n'est pas de manquer d'inspiration, mais plutôt de la contenir. Les 300 modèles de bijoux qu'elle crée chaque année ne représentent qu'une fraction de tout ce qui mijote dans sa tête. Le frère d'Anne-Marie, David, a un rôle, il doit vendre. Il y a un an, Anne-Marie est allée le débaucher chez Bombardier, où il était gestionnaire en stratégie et développement des affaires, pour lui offrir de diriger l'entreprise qu'elle a fondée en 1995 et qui compte aujourd'hui 30 employés. Elle dit « J'adore le côté business, mais c'était devenu trop gros pour que je puisse continuer à créer. Il fallait que je confie la gestion à quelqu'un d'autre. » C'est une femme de 40 ans, maman de deux enfants, et dont le conjoint Jean-Philippe Duval est réalisateur de la populaire série télévisée « Unité 9 ». Le secteur du bijou n'est pas facile, admet le PDG. Il faut faire de la qualité, mais aussi savoir quand s'arrêter, car on ne peut pas augmenter les prix indéfiniment. Les prix des bijoux AMC varient de 35 $ pour des boucles d'oreilles jusqu'à 150 $ pour un collier. Certaines créations uniques se vendent 1 500 $. Garder la production au Québec est un choix qui reste également difficile. Peu de créateurs de mode et d'accessoires ont persisté dans cette voie. Anne-Marie Chagnon résiste. Le problème est que pour le même prix, ceux qui font fabriquer en Asie dégagent une plus grande marge de profit qu'elles peuvent ensuite réinvestir en publicité et en marketing. Il nous reste beaucoup moins pour nous faire connaître, explique David Chagnon. Anne-Marie Chagnon n'a peut-être pas les moyens de se payer des affiches géantes en bordure des routes, mais elle trouve son chemin jusqu'à ses clientes grâce aux mannequins qui défilent sur les passerelles et aux vedettes qui foulent les tapis rouges ou figurent dans les magazines féminins et les séries télévisées. Sa stratégie, se faire connaître auprès des acteurs importants de la mode. Chaque année, elle organise des présentations privées pour les stylistes et les costumiers qui habillent les vedettes du petit écran et les personnalités médiatiques. Marie-Lou Wolfe, Pascal Monpetit, Edith Cochrane, Pauline Marois et Anne-Marie Dussault ont toutes porté un bracelet ou un collier AMC. Dans les milieux artistiques, il est de bon ton de porter un bijou AMC, d'autant que la jeune designer est aussi connue pour son engagement social. Elle signe notamment la collection spéciale de 7 bijoux porteurs d'espoir et fait un don destiné à la recherche sur le cancer de l'ovaire pour chaque article vendu. Ces bijoux séduisent aussi par leur caractère unique et artisanal. Pour fabriquer ces pièces, Anne-Marie Chagnon utilise une technique vieille comme le monde, la cire perdue qu'utilisait le célèbre Rodin pour réaliser ses sculptures de bronze. Chaque pièce est d'abord sculptée dans la cire, qui sert ensuite à créer un moule dans lequel on coule de l'étain, matériau de base de la marque AMC. Depuis quelques mois, les artisans coulent l'étain dans les locaux même de l'entreprise qui se situe dans une ancienne usine de textile de la rue Cassegrain, toujours à Villeray. Quand elle a commencé, la jeune étudiante qui souhaitait payer ses études en arts visuels en vendant ses bijoux au pied du Mont-Royal ne se doutait pas qu'elle dirigerait un jour un atelier de fonderie. C'est son père, lui-même entrepreneur, qui lui a donné l'idée de fabriquer des moules pour gagner du temps. Il m'a dit « Je vais te prêter 1 000 $ ». Je pense qu'il était un peu découragé pour moi, raconte-t-elle. Ses premiers 1 000 $ lui ont permis d'acheter l'équipement nécessaire et de répondre à la demande qui ne cessait d'augmenter. En 2003, le Cirque du Soleil lui confie la création de bijoux exclusifs pour le spectacle Zumanité à Las Vegas. Ce partenariat se poursuit encore après plus de 10 ans. Chaque année, une collection exclusive signée AMC est offerte dans les boutiques du cirque. AMC n'a plus de frontières. La moitié de son chiffre d'affaires, qu'elle préfère garder secret, est réalisée sur le marché international. Récemment, la MAC a fait son entrée en Russie et l'objectif est d'augmenter sa présence en Chine. En 2010, AMC a représenté le Canada à l'exposition universelle de Shanghai. « Nous voulons devenir une marque internationale », confie les deux Chagnon à l'unisson. Elle fait briller les femmes. C'est d'Anne-Marie Chagnon dont il est question dans cet article signé par Cathy Noël dans l'actualité du mois de mars.
Alors, quelques brèves. Wabi Zabi, c'est bon. Que ceux et celles qui ne se trouvent pas beaux suivent le courant Wabi Zabi.
Wabi Zabi.
Wabi Zabi. Il enseigne une autre façon de voir et d'apprécier nos imperfections et celles des autres. Au plan esthétique, le wabi-sabi valorise la beauté des choses transformées par l'usure du temps. En tant que transposition dans le quotidien des enseignements bouddhistes, selon lesquels tout est passager, le wabi-sabi peut nous aider à lâcher prise et à nous accepter avec nos défauts, manques et faiblesses, nous considérant alors comme être unique. Résolution wabi-sabienne pour 2015, regarder l'autre avec compassion et accepter ses côtés qui nous paraissent bizarres, sans juger, voir la beauté qui réside dans l'irrégularité, la dissonance et devenir libre de toute envie.
On en apprend des choses ici, c'est incroyable. Le chiffre 150 maintenant. C'est le nombre de pétitions en ligne lancées chaque semaine par les Argentins qui y voient un nouveau moyen de pression collectif. Fermeture d'un abattoir de chevaux, interdiction de séjour de Justin Bieber, parce qu'il a essuyé le sol avec un drapeau argentin en 2013, destitution d'un juge accusé de corruption, instauration d'un tarif étudiant sur certains titres de transport, construction d'écoles, les sujets sont infinis et ça marche parfois. Par exemple, les 350 000 personnes qui ont signé une pétition pour la réintégration d'un juge réputé pour ses positions anticorruption ont eu gain de cause.
Oui, et maintenant, champignon magique. Louise Durepos n'a pas que son nom d'extraordinaire. Propriétaire d'un gîte du passant à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, elle se consacre à la récolte et la commercialisation du chaga. En parfait accord avec Santé Canada, un jour, dans les bois restigouchois, elle tombe par hasard sur ce champignon sauvage à l'allure d'un morceau de charbon. Intriguée, elle fait des recherches et découvre que c'est un véritable trésor médicinal, qu'il est utilisé depuis des siècles en Russie, en Chine et au Japon pour soigner et guérir. Consommé en poudre ou en granules, ses propriétés anticancérigènes, antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-allergiques lui confèrent un pouvoir curatif impressionnant. Des visiteurs du gîte qui l'ont essayé en ont témoigné, rapporte Louise. Vu la rareté du chaga, il en pousse un sur 15 000 arbres. Cette espèce est à cueillir avec parcimonie pour un usage contrôlé.
Un concurrent de la truffe.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors maintenant, achats en ligne, comment les annuler ou se faire rembourser? Se procurer un voyage, un billet de spectacle ou même sa garde-robe dans le confort de son foyer, rien de plus simple aujourd'hui. Mais acheter en ligne apporte aussi son lot de désagréments. Vous pourriez par exemple recevoir vos billets de concert après la date de l'événement. Et que dire du joli chemisier livré avec une tache? Il existe heureusement des moyens d'annuler ou de se faire rembourser les achats effectués par Internet. Mais encore, faut-il remplir certaines conditions. Quand il y a achat par Internet, cela sous-entend que le consommateur et le commerçant ne sont pas en présence l'un de l'autre. Il s'agit donc d'une transaction conclue à distance, procédé qui est régi par la loi sur la protection du consommateur. Lorsque survient un pépin avec la marchandise ou si le service rendu ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez demander au commerçant d'annuler la transaction. Mais il faut d'abord vérifier une chose. La politique d'échange ou de remboursement du commerçant peut-elle s'appliquer? Le simple fait d'être déçu du chemisier fraîchement arrivé n'est pas toujours une raison suffisante pour exiger un remboursement, un échange ou même une note de crédit. Si l'article est défectueux, bien sûr, c'est une autre histoire. Le marchand est alors tenu de réparer le bien en question ou encore de l'échanger ou de vous dédommager. Tout dépend de la garantie offerte par ce dernier ou de celle que prévoit la loi. Vous achetez parfois sur Kijiji.ca, retenez que les ventes entre particuliers et sur les sites web de type petites annonces ne sont pas couvertes par cette réglementation. Alors d'abord, les conditions d'annulation. Les conditions pour annuler un achat par Internet vont différer selon les circonstances et le délai d'annulation variera en conséquence, précise Jean-Jacques Préau, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. On va voir quelques cas. Si vous avez reçu le bien ou le service dans les 30 jours suivant la date convenue, si vous n'avez pas reçu le bien ou le service dans les 30 jours suivant la date convenue par écrit avec vous ou dans les 30 jours suivant la date de l'achat, et si aucune date n'est indiquée dans le contrat, le délai d'annulation est en tout temps, tant que vous n'avez pas reçu le bien ou le service. Si le commerçant ne vous a pas transmis un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant l'achat, le délai d'annulation est de 30 jours suivant l'achat. Si le commerçant ne vous a pas donné avant l'achat tous les renseignements obligatoires, tels que la description détaillée du bien ou du service, le coût total de votre achat, la date et le délai de livraison s'il y a lieu, le mode de livraison, les conditions d'annulation, la description des frais supplémentaires comme des droits de douane et des frais de courtage, le commerçant ne vous a pas divulgué correctement les renseignements obligatoires, s'ils sont difficiles à trouver sur le site web ou s'il est impossible de les imprimer, aussi s'il ne vous a pas donné clairement la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition ou d'en corriger les erreurs, si le contrat ne contient pas tous les renseignements obligatoires comme votre nom, votre adresse et la date de l'achat, si le contrat que vous avez reçu peut difficilement être conservé ou imprimé, dans tous ces cas, le délai d'annulation est de 7 jours suivant la réception du contrat. Enfin, si le commerçant ne vous a pas donné avant l'achat tous les renseignements obligatoires, ce dont vous vous rendez compte au moment où vous recevez le bien ou obtenez le service, alors le délai d'annulation est de 7 jours suivant la livraison du bien ou l'obtention du service. Pour se faire rembourser, les achats en ligne les plus susceptibles de poser problème sont ceux qu'on ne paye pas avec sa carte de crédit, remarque Jean-Jacques Préau. Si par exemple vous avez acheté un produit en payant avec un chèque, un mandat bancaire ou votre compte PayPal, vous pourriez, si les choses se gâtent, avoir à entreprendre une procédure judiciaire. Lorsque le commerçant n'est pas physiquement présent au Québec, cela peut également compliquer le processus de remboursement. Par exemple, vous avez acheté un produit qui vient de Chine ou d'Europe et vous ne payez pas avec une carte de crédit. Les recours peuvent alors être limités. Si le consommateur paye avec une traite bancaire ou passe par un tiers, il devra vérifier quel type de protection lui offre cet intermédiaire. Ce n'est pas la loi qui prévaut alors, rappelle le porte-parole de l'Office du consommateur. Si vous réclamez une somme inférieure à la limite de 15 000 $, vous pourriez vous adresser à la Cour des petites créances. Ce tribunal entend les causes visant l'annulation ou la résiliation d'un contrat lorsque sa valeur ou la somme réclamée n'excède pas 15 000 $. Le consommateur devra alors se présenter lui-même sans avocat. À propos de la carte de crédit et de la rétrofacturation, dans la mesure où vous avez utilisé une carte de crédit pour payer le marchand, vous pouvez, en cas de pépin, changer d'idée et demander une annulation ou un remboursement, confirme Jean-Jacques Préau. Si le marchand refuse la requête, vous avez la possibilité de lui envoyer par courrier recommandé une mise en demeure. Advenant que le commerçant rejette à nouveau ce que vous exigez, vous êtes alors autorisé à faire à l'émetteur de la carte de crédit utilisée une demande de rétrofacturation. Vous disposez alors de 60 jours pour faire une telle demande. Rappelez-vous que pour avoir droit à la rétrofacturation, il faut avoir effectué le paiement par carte de crédit directement auprès du commerçant sans être passé par un tiers comme PayPal. Ce processus souvent méconnu des consommateurs est en vigueur depuis 2010. L'émetteur de la carte de crédit doit vous envoyer un accusé de réception dans les 30 jours suivant la réception de votre demande de remboursement. Il est aussi tenu de créditer votre compte du montant payé et d'annuler les frais portés à votre compte en rapport avec l'achat. Voilà, pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site de l'Office de la protection du consommateur où vous trouverez une foule de renseignements, de conseils et d'outils utiles. C'était donc un article dans la revue Le Bel Âge de mars 2015, écrit par Sophie Stival.
Maintenant, une incursion dans la chronique santé du Reader's Digest de mars, des articles qui portent la signature de Kate Allen. D'abord, soignez votre flore intestinale. cultiver les bonnes bactéries. En supposant que vous ayez entendu parler du microbiome, vous ne savez probablement pas de quoi en penser. Vous ne savez probablement pas quoi en penser. Ces dernières années, une série d'articles scientifiques ont révélé une corrélation entre des troubles aussi divers que l'asthme, le cancer et l'obésité à des changements dans le microbiome. Ce sont les génomes collectifs des milliers de milliards de micro-organismes qui coexistent sur notre peau, dans notre bouche et surtout dans nos intestins. Pourtant, à l'exception des soi-disant spécialistes qui pullulent en ligne, on trouve peu de conseils sur les moyens de le renforcer. La raison est simple. Nous savons que le microbiome varie d'une culture, d'une personne et même d'un jour à l'autre, mais on ignore encore exactement à quoi ressemble une bonne ménagerie intestinale. La recherche en cours nous indique toutefois quelques mesures bénéfiques. La fonction et la diversité de cette communauté dépendent du mode de vie et en particulier de l'alimentation, note Justin Sonnenberg, microbiologiste à l'Université Stanford en Californie et co-auteur d'un livre à paraître sur le microbiome et la santé. Il est encore tôt, mais quand on examine l'ensemble des publications médicales, certaines choses sautent aux yeux. D'après deux articles publiés en août 2013 dans Nature, par des équipes de chercheurs danois, français, allemands, chinois, espagnols, néerlandais et britanniques, les personnes dont le microbiome est moins diversifié ont tendance à être plus grasses et plus résistantes à l'insuline que celles dont la flore bactérienne est plus riche. Chez des sujets en surpoids, un régime riche en fibres, notamment en fruits et légumes, a enrichi la flore bactérienne et atténué les symptômes cliniques de l'obésité. Ces aliments ne sont donc pas seulement bons pour vous, mais aussi pour votre microbiome. Que penser des antibiotiques qui tuent les bonnes bactéries en même temps que les mauvaises? Ils demeurent notre meilleure défense contre beaucoup de maladies, mais quand il faut en prendre, mieux vaut soigner ces microbiotes. On en apprend des mots nouveaux aujourd'hui. Une méta-analyse publiée en 2012 dans le Journal of the American Medical Association a établi que les adultes et les enfants qui consommaient des produits probiotiques couraient moins de risques d'avoir de la diarrhée à la suite d'un traitement antibiotique. Maintenant, il y a un PS à ça. 10 pour 1, c'est le rapport le plus couramment cité entre le nombre de cellules microbiennes et humaines chez un adulte normal. Autrement dit, nous sommes plus microbiens qu'humains. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre état de santé dépend tellement de celui de cette communauté symbiotique. 1,1 kg, c'est le poids de la totalité des micro-organismes bactériens, viraux, fongiques et autres, composant le microbiome humain moyen. 1 kilo que vous ne voulez probablement pas perdre.
Non, mieux pas.
Nouvelle du monde de la médecine maintenant, le poids de l'obésité. La plupart des individus sont conscients de l'épidémie d'obésité, mais se sentent-ils concernés? Une analyse des résultats de deux enquêtes menées auprès de 657 Britanniques, dont l'indice de masse corporelle était égal ou supérieur à 30, le seuil de l'obésité, a révélé que seuls 11 % des femmes et 7 % des hommes se considéraient comme obèses. Autre titre dans des nouvelles du monde de la médecine, « La maternité ne change rien. Avoir des enfants n'est pas un handicap », soutiennent des chercheurs du centre Ragnar Frisch d'études économiques de l'Université d'Oslo. Ils ont analysé 40 ans de données recueillies sur la quasi-totalité des Norvégiennes pour établir que les mères ne s'absentent pas plus souvent, ne réclament pas plus de prestations d'assurance sociale et n'ont pas un taux de mortalité plus élevé que celles qui n'ont pas d'enfants. Autre dernier titre sur les autres nouvelles du monde de la médecine. Dans un article de la revue Information, Communication and Society, des chercheurs de l'Université Concordia à Montréal rapportent que, bien que seuls 44 % des 163 personnes qui ont fait l'objet de leur enquête jouent à des jeux en ligne avec des membres de leur famille, ces séances renforcent les liens entre les joueurs. Certains les utilisent pour rester en contact avec des proches qui vivent au loin, d'autres pour avoir un sujet de conversation. Des grands-pères jouent en ligne avec leurs petites filles, des mères avec leurs fils. Ces interactions entre générations permettent de dépasser les barrières de l'âge et les difficultés de communication, affirme Kelly Boudreau, co-signataire de l'article. Alors, des nouvelles du monde médical, c'est dans la revue du Reader's Digest du mois de mars sous la signature de Kate Allen.
Petit matin, sans horizon. Petit café, fumée d'usine. Je regarde derrière des maisons. Les femmes sont à leur cuisine. Il y a des oiseaux qui se font la cour. Sur les fils du bel téléphone. Et dans l'œil crevé de ma cour. Un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort. Des airs à faire pendre un merle. Les enfants s'amusent dehors. Dans la sloche, un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal. Crime passionnel rue Lacordaire. Paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. Entre deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano. Je trouve cet air de ma grand-mère. Et pour les mots, je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris. J'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. Avant de rechanter les roses. Oui, nous irons à Old Orchard cet été, où l'air soleil vient doucement se mêler. Parfum de frites, pis de hot dog estimé. Au bruit des vagues, au bruit des rails, des montagnes russes bien se mélanger. Les pieds dans le sable, les yeux sur la mer bleue. Entre les canettes de molle pis de la batte bleue. Pendant 15 jours, on pourra se faire toaster. Oui, nous irons à Old Orchard cet été.
Alors, quelques documents à conserver. C'est un article d'André Dumont dans la Presse Plus du 28 février 2015. Alors, dans une transaction immobilière, il y a un tas de paperasses obligatoires, de quoi faire oublier une foule de documents qui auraient avantage à être transmis du vendeur à l'acheteur. Où sont le reçu de la nouvelle hotte de cuisinière, la garantie du chauffe-eau acheté l'an dernier et la facture des fenêtres qui ont été changées? Ses deux enfants ayant quitté le nid familial, Suzanne Dutch sait que d'ici quelques années, elle mettra en vente sa maison à paliers multiples de Greenfield Park. Depuis qu'elle l'a acquise en 2002, elle l'a bien entretenue et elle est persuadée que cela sera un plus pour rassurer les acheteurs potentiels. Dans une série de chemises, elle conserve tous ses documents. Les factures de la réfection de la toiture effectuée cet automne et de l'achat d'une fournaise électrique installée l'an dernier, le contrat d'entretien de la thermopompe et même des documents attestant des travaux réalisés il y a 10 ans pour donner suite aux recommandations contenues dans ce rapport d'inspection pré-achat. Les acheteurs intéressés auront d'ailleurs accès à ce rapport, dit-elle. Elle dit aussi « Ce sera très facile pour moi de faire la liste des travaux qui ont été réalisés. Je pense qu'en étant transparente sur l'état de la maison, cela pourrait augmenter le niveau de confiance d'un acheteur et faciliter sa décision. » En effet, rendre disponibles tous ces documents n'est pas obligatoire. Mais cela peut être qualifié de bonne pratique, soutient Pierre Deneau, un courtier immobilier qui se consacre aujourd'hui à l'enseignement. Les courtiers peuvent encourager leurs clients vendeurs à produire ces documents, mais ils ne peuvent pas les y obliger. Ce n'est pas tout le monde qui a conservé ses factures. Le vendeur, qui met de l'avant ses preuves écrites, témoigne de sa bonne foi et met en valeur la qualité de l'entretien offert à sa propriété. Pour le nouveau propriétaire, il sera beaucoup plus simple de faire valoir une garantie sur un appareil ou de savoir exactement à quand remontent certains travaux, comme le nettoyage des conduits de ventilation ou l'inspection du drain français. À propos des appareils, les électroménagers, poêles, frigos, lave-linge, inclus dans une vente, sont considérés comme des biens meubles et sont généralement vendus sans garantie légale de qualité. Ces appareils doivent être fonctionnels au moment de la réception du bâtiment, sans plus. Le lave-vaisselle encastré est en zone grise, entre les catégories de biens meubles et immeubles. Les installations permanentes de chauffage, de plomberie et d'éclairage font partie de l'immeuble. Ils sont automatiquement inclus dans la vente et doivent être exempts de vis cachées. Quand un appareil est encore couvert par une garantie, celle-ci est tout à fait transférable à l'acquéreur, même si le vendeur n'a aucune obligation légale de transmettre les documents, explique Jean-Jacques Préau, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. En disposant d'une facture, il sera beaucoup plus facile de faire valoir une garantie. À propos des travaux, Suzanne Dutch prévoit faire réparer 2 fissures de fondation le printemps prochain par une entreprise de bonne réputation qui produira une preuve écrite de l'intervention. Elle conserve les factures des fenêtres qui ont été changées et de tous les autres travaux réalisés par des professionnels. Les courtiers inscripteurs vont souvent énumérer des travaux récents dans la fiche descriptive de la propriété à vendre, mentionne Pierre Deneau. Tout ce qui est annoncé devrait être appuyé par des pièces justificatives. Sinon, le courtier va se faire taper sur les doigts. Pierre Deneau, courtier immobilier et professeur au Collège d'enseignement immobilier, dit que ces travaux devraient être appuyés par une facture de l'entrepreneur, les permis requis et les plans et devis s'il y a lieu. Quand le vendeur n'a pas de preuve écrite des travaux qu'il prétend avoir fait réaliser, on peut supposer qu'ils n'ont pas été exécutés par des travailleurs qualifiés. Un contrat d'entretien d'un système de chauffage à combustion est une belle preuve que celui-ci n'a pas été négligé. Pour l'acheteur, il sera facile de faire affaire avec la même entreprise. On peut aussi transmettre des copies d'un contrat d'entretien d'un climatiseur, d'une cheminée ou même d'une piscine. La location du chauffe-eau peut facilement être reprise par le nouveau propriétaire, simplement en contactant le fournisseur. La section D12 de la désormais déclaration de la désormais obligatoire déclaration du vendeur sur l'immeuble contraint le vendeur à déclarer les expertises réalisé à sa connaissance, que ce soit pour détecter la présence de pyrite, de radon, de dépôts d'ocre et d'amiante, ou pour évaluer la qualité de l'air, de l'eau et du drainage des fondations. Sans rapport de firme d'experts, ces vérifications n'ont aucune valeur. Les rapports d'expertise doivent porter précisément sur la propriété visée. Il est déjà arrivé que de la vermiculite d'une autre résidence soit utilisée pour démontrer l'absence d'amiante et ou que la qualité de l'eau potable ait été analysée à partir d'eau embouteillée. Quand ces expertises sont pertinentes, selon le secteur et l'âge du bâtiment, Un bon courtier suggérera au vendeur qu'elle soit réalisée avant d'acheter la propriété, affirme Pierre Deneau. Pour une résidence isolée, sans service d'aqueduc, on voudra pouvoir démontrer d'emblée la disponibilité et la qualité de l'eau, illustre-t-il. J'ai eu vent d'un cas actuel dans les Laurentides où l'acheteur panique parce qu'il s'est fait dire qu'il se pouvait que l'eau du puits soit insuffisante. Il aurait été préférable de commander l'analyse bien avant. Voilà, donc c'était quelques documents à conserver. Un texte écrit par André Dumont dans la Presse Plus du 28 février 2015. Alors, pour compléter l'article que je viens de vous lire, une réponse à une question par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge d'avril 2015 à propos d'un vice caché. Qu'est-ce qu'un vice caché? Un vice caché est une défectuosité dans un bien ou encore un défaut ou un bris important et non apparent qui existait au moment de la vente du bien. Attention, une usure ou une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien n'est pas considérée comme un vice caché. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les vices cachés ne concernent pas que les biens immobiliers. La garantie légale de qualité qui protège contre les vices cachés s'applique tant aux immeubles et à ce qui s'y rattache, la maison, le condo, piscine, garage, etc., qu'aux biens meubles, mobilier, voiture, moto, vendus par un vendeur professionnel ou non. En vertu de l'article 1726 du Code civil du Québec, le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est, lors de sa vente, exempt de vices cachés qui le rendraient impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminueraient tellement son utilité que l'acheteur, s'il l'avait su, ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix demandé. En revanche, le vendeur n'est pas tenu d'assurer la protection contre un vice caché connu de l'acheteur, ni un vice apparent, c'est-à-dire celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans qu'il soit nécessaire de recourir à un expert. Le vendeur a l'obligation légale d'indiquer à son éventuel acheteur toutes les caractéristiques qui seraient de nature à diminuer la qualité ou l'utilisation du bien. De plus, même s'il est indiqué dans un contrat que le bien est vendu sans garantie légale, le futur acheteur peut poursuivre le vendeur sur la base de l'obligation de renseignement, s'il est en mesure de prouver que le vendeur connaissait le vice ou n'aurait pas dû l'ignorer. Le vendeur est donc responsable du vice caché, même s'il ignorait son existence au moment de la vente et qu'il a agi de bonne foi. L'acheteur doit, quant à lui, procéder à un examen visuel minutieux du bien avec les services d'un expert ou non. S'il ne le fait pas, le vendeur poursuivi en justice pourrait évoquer la négligence de l'acheteur. Lors de la découverte d'un vice caché, vous devez obligatoirement aviser le vendeur par écrit le plus rapidement possible. S'il néglige ou refuse de donner suite à votre avis, vous pourrez le poursuivre devant les tribunaux après lui avoir adressé une mise en demeure. Vous pourrez alors demander l'annulation pure et simple de la vente, une diminution du prix de vente ou encore le remboursement du prix des travaux nécessaires pour corriger la situation.
Attention aux vices cachés donc.
Eh oui.
De court topo maintenant, sous la rubrique logique. Les sénateurs sont assez près de la mort pour s'occuper de ce projet de loi. C'est la sénatrice conservatrice Nancy Root qui a accepté en décembre dernier de parrainer avec le sénateur libéral indépendant Larry Campbell un projet de loi qui permettrait l'aide médicale à mourir. Les deux sénateurs reprennent le projet de loi du député conservateur manitobain Stephen Fletcher, qui souhaite modifier le code criminel en ce sens, mais qui se heurte à un refus d'en débattre au sein du parti de Stephen Harper. Si le Sénat adopte le projet de loi, la Chambre des communes aura l'obligation de s'y pencher à son tour. Autre court topo.
Alors, aux États-Unis,
oui.
Les enfants de la rue... En 2012-2013, il y avait environ 3200 enfants mineurs sans parents ou sans abri qui fréquentaient les écoles dans l'État de l'Oregon. Le gouvernement américain a alors voté une loi permettant de procéder au dénombrement de ces enfants afin d'obtenir plus de données. Il a pu ainsi dresser un profil plus exact des jeunes sans abri à partir de la maternelle jusqu'à leur graduation. Les responsables américains étaient plutôt préoccupés par les enfants de moins de 10 ans vivant dans la rue, car une telle expérience est traumatisante et peut sérieusement affecter leur développement cérébral.
Et sur ce, nous terminons cette émission Kiosque Magazine du lundi 9 mars. Ici Jean-Sébastien Laliberté, le Manitou en régie, Francine Nieuviard et Roger Roy, nous vous disons.
Oui, ben au revoir et à la semaine prochaine.
C'est ça, à tout à l'heure, à plus tard.